This is Hacker Public Radio, episode 3885 for Friday, the 23rd of June, 2023. Today's show is entitled Zapro de Papas Mankits Podcast, Renkentry Avik Lovturi Nyer Du Liber. It is part of the series Podcast Recommendations. It is hosted by Ken Fallon and is about 122 minutes long. It carries an explicit flag. The summary is a sample episode from the latest entry to the Free Culture Podcast.
Hi, everybody. My name is Ken Fallon, and you're listening to another episode of Hacker Public Radio. As you know, our sister project called the Free Culture Podcast showcases Creative Commons podcasts on any topic. Today is going to be a sample episode of the latest entry, which is a French language podcast, L'Apéro des Papas Manchots Podcast, loosely translated as the Papa Penguins Aperitif Podcast. From their about page, it says the podcast dealing with Linux and open source. After some discussion with the community, we decided to air this show in its original language. Links to the translations are in the show notes.
Bonjour à tous et bienvenue sur l'apéro des papas manchots, un épisode spécial. Mais avant de rentrer plus dans les détails, je vais saluer le co-animateur avant l'invité qui va se présenter. Bonsoir Cédric, comment vas-tu?
Hello John, ça va? J'espère que tu vas bien.
Ça va. Bon. On a un superbe invité ce soir.
Ah, c'est clair, tu me l'as bien vendu, donc j'espère.
Fraîchement revenu de Toulouse pour le Capitole du Libre. Bonsoir Christophe, comment vas-tu?
Bonsoir à vous, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices. Bonsoir Cédric, merci de m'avoir invité dans votre émission du podcast. Et oui, je confirme, j'étais au Capitole du Libre. Un événement important autour de solutions libres, avec quelques conférences à mon actif. J'en ai juste donné 4.
Un conférencier, oh là là, c'est magnifique.
Voilà, c'est ça. Donc, quel conférencier
Oui. Non, il faut rester simple. Donc, je suis ravi de participer à votre émission aujourd'hui.
Bon, ben, c'est avec plaisir. C'est vraiment avec plaisir qu'on te reçoit. Je te remercie, John, d'ailleurs, pour l'invitation. Et donc, ce que je voulais, on voulait que tu te présentes, parce que tu dis que tu fais 4 conférences, j'imagine c'est pas 4 conférences sur la même chose, ça va être sur des choses différentes, donc je pense que tu es quelqu'un de multicasquette, c'est ça?
C'est bien ça, donc je m'appelle Christophe Villeneuve, je suis en niveau professionnel expert open source pour le groupe Atos. Dans le service open source, je précise bien, donc autour des technologies ouvertes, libres et open source. Mais ma grosse activité principale, c'est le dressage d'animaux.
Ah, génial. Eh bien, écoute, on va faire une émission spéciale sur le dressage d'animaux.
Donc, mes activités autour du dressage d'animaux vont s'orienter sur l'éléphant. L'éléphant pour PHP. Yeah. Ensuite, l'Otari pour la base de
MariaDB.
Pour MariaDB, merci. Ensuite, le Fox pour Firefox.
Le navigateur, ouais.
Voilà. Le Lézard pour les protéger, c'est-à-dire la cybersécurité.
Ouais.
Le tout, bien entendu, il faut leur donner un petit peu d'eau à pourboire. Pour se désaltérer et prendre des forces. Donc, la goutte d'eau, c'est Drupal.
Ah oui, carrément. OK.
Ce qui permet de pouvoir répondre à l'ensemble de tous les problèmes, leur donner à boire pour qu'ils puissent survivre, les protéger avec le lézard, et puis bien entendu, l'accessibilité, mais l'accessibilité, il n'y a pas d'animaux, donc c'est ça reste marginal, mais c'est quelque chose d'important, l'accessibilité pour le secteur numérique d'aujourd'hui. Ça, on va dire, ce sont les grandes familles. Et bien sûr, qui dit grande famille, dit il faut pouvoir échanger, communiquer, puis surtout les faire adopter. L'adoption est quand même importante.
Et sur le long terme, s'il vous plaît.
Bien sûr. Et l'adoption et la communication passent par des articles de ma part, aussi bien dans des magazines de type programmé, Linux Pratique, magazine ou MISC, ou quelques émissions de radio type Cyberculture sur Cause Commune 93.1 FM. Désolé, petite publicité, petit clin d'œil à mes collègues.
Au contraire.
Et je suis aussi auteur publié, dont le sujet d'aujourd'hui PHP, ça tombe bien, j'en ai trois mon actif, et sur la partie du Drupal, je suis aussi auteur publié, et j'en ai deux autres en préparation, mais ça, je pense que ça sera aussi un autre sujet.
Ah oui, ouais.
Donc voilà.
Ah, d'ailleurs,
oui,
j'ai oublié, et j'aurais dû le faire en ouverture du podcast, j'ai oublié de te passer le bonjour de Mika.
Oh oui. Bonjour Mika, que
Mika
je connais
Dubot.
Bien. Oui, oui, oui. Ouais, ouais.
Du site Super Capote, notamment, de plusieurs frameworks Symfony, et il a fait une émission avec nous sur Godot, il y a de cela... Oh, je n'arrive plus à le dire, mais vous le retrouvez sur le site.
Ouais, il y a peut-être un an, je crois, quelque chose comme ça.
Ouais.
Donc oui, je le connais très bien. Et j'ai quelques goodies de sa part aussi, liés avec ces sites de réalisation, de ce que tu as pu lister tout à l'heure.
Excellent. Oui, donc vraiment multicasquette, dis donc. Waouh.
Voilà. Et bien sûr, pour chaque dressage d'animaux, je suis impliqué dans les communautés. Sinon, ça ne serait pas rigolo et je m'ennuierais parce qu'une journée, comme tout le monde le sait, c'est 25 heures.
Bon. Au minimum.
Non, il faut rester quand même raisonnable. Il faut un petit peu de repos, quand même.
Donc, parmi ces animaux, tu t'en occupes, au sein de la société. Mais tu fais quoi également? Donc, tu fais du développement, tu contribues, tu es contributeur, c'est ça?
Alors, ça dépend en cause position. Donc, chaque animaux que j'ai pu lister, il y a des associations qui existent. PHP, c'est l'association de la FUP. L'association française des utilisateurs de PHP. Tous les ans, on organise le forum PHP. Je suis un trésorier historique de l'association. Je suis impliqué dans les antennes aussi autour du langage PHP. Je contribue pas que à la partie évangélisation ou d'écrire des articles ou de faire des conférences autour de ce sujet. Ça m'arrive aussi de pouvoir patcher ou de pouvoir sortir des applications ou des modules complémentaires. Alors, pour les jeunes personnes, donc on va dire qu'on repart sur les années 2000, donc ça date déjà.
Ça va.
Je communiquais avec les bases de données Access et PHP en 2000 avec les protocoles ODBC, donc j'ai participé énormément. Donc c'est un sujet technique qui permet de montrer que PHP peut communiquer avec toutes les bases de données possibles et inimaginables, même celles qui sont infaisables, sont faisables.
D'accord.
Pour MariaDB, MariaDB, c'est l'Otari, donc un autre animal qu'il est important de dresser. Eh bien, c'est qu'on aura le temps de reparler, mais il y a une association qui s'appelle le MUG, MySQL MariaDB User Group, dont je pris le lead de cette partie. Pour la partie le renard, le fox, le panda à roue, je suis représentant un des leads de la communauté française, donc autour de Firefox, pour ceux qui ne l'ont pas compris, de Command Voice, de la voix, de la réalité virtuelle, de l'accessibilité, de la partie outils pour les développeurs. Donc là aussi, on se retrouve avec beaucoup d'outils, beaucoup de choses à destination des développeurs. Et puis la partie Drupal, qui était la goutte d'eau, J'ai été aussi trésorier, je suis auteur, je suis contributeur, impliqué dans les parties communautaires, enfin modules complémentaires, donc les add-ons, et puis pour la partie, la dernière brique, le Lizard, qui est le Lézard, sur la cybersécurité et le DevSecOps, eh bien là, il est important de les protéger et donc d'expliquer aux développeurs, à travers un meet-up que j'organise régulièrement, comment les développeurs doivent mettre en place ou être sensibilisés à la cybersécurité dans leur code. Parce que c'est bien de dire « je sais coder », mais quand celui qui dit « je suis un expert du code » et qu'il ne connaît pas la sécurité, il y a une petite différence, c'est que son code n'est pas de qualité.
D'accord, d'accord. Ah oui, toi tu juges carrément là-dessus, du moment où un développeur ne connaît pas la sécurité, c'est que forcément tu le catégorises de fait dans les mauvais développeurs.
Non, c'est un développeur qui a une force de progression importante. Mmh. Donc, c'est pas quelqu'un qui est mis à part, c'est que la personne n'a pas appris ou n'a pas été sensibilisée sur les tests, sur les bonnes pratiques ou même sur la sécurité au sens large. Quand on parle de sécurité, c'est quand je parle, par exemple, le rapport OWASP. Donc, c'est un top 10 de la fondation OWASP autour de la sécurité. Et cette sécurité, quand on parle d'injection, beaucoup vont dire l'injection dans la base de données. Oui, c'est un morceau de l'injection. Mais l'injection ne se limite pas qu'à la base de données.
On peut parler Log4j.
Log4j, c'est du Java. Mais oui, ça peut rentrer dedans.
Dans l'injection.
Mauvais.
Mais l'injection ne se limite pas qu'à la base de données. On peut faire de l'injection dans du code ou de l'injection sur des serveurs.
Oui, mais ce qui s'est passé avec Log4j, en effet, c'est hors domaine, parce que là, on parle plutôt de PHP, mais en effet, Log4j était un problème d'injection Java.
Oui, mais pour montrer que l'injection ne se limite pas qu'à une catégorie ou une mauvaise connaissance de la réalisation dans le développement.
Oui, mais c'est très bien. Mmh.
Voilà, parce que c'est PHP se positionne du côté back-office, se positionne aussi avec différentes briques qui se traduisent par l'utilisation de framework ou de CMS. Donc framework, c'est des librairies déjà pré-packagées où dedans, il y a l'ensemble de toutes les briques de sécurité. Et si un développeur n'utilise pas utilise le framework, mais sans la partie sécurité, en gros, ça revient à prendre une voiture, toute option.
Mais sans frein.
Sans le capot.
Ou sans frein.
Sans le toit.
Ou sans frein. Ouais. Ok.
Oui, voilà. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un manque. Et ce qui veut dire qu'il y a un risque. Un risque quand même qui est important. Si un morceau n'est pas correctement fait, la sécurité peut être impactée. L'effet derrière qui s'en déroule, c'est que le site peut changer de contenu. C'est-à-dire que du contenu, vous pensez arriver sur un site super, merveilleux, le site du podcast, et on pourrait imaginer, non, on ne va pas imaginer le pire, mais parce que je connais les auteurs du podcast. Ils font de la qualité. Donc, qui dit qualité, dit que tout va bien.
Mais tout est à jour. Tout est à jour. Tout.
Oui. Mais si quelqu'un ou une nouvelle techno ou un autre site web qui met en avant « je suis super merveilleux dans tous les côtés » et qui oublie des morceaux, on se retrouve avec quelque chose de bancal et le site merveilleux deviendra un site qui est préférable d'éviter d'y accéder.
Un repère de fausses pages qui vous demandent votre carte bleue, par exemple.
un site, on va dire, trouble.
Ouais.
Donc, on va éviter d'aller du côté obscur de la force.
Donc, tu es un adepte du podcast No Limit Sécu au niveau sécurité?
Oui, je les connais bien.
Bon, très bien.
J'ai même participé à des enregistrements, donc oui.
D'accord. Donc, pour les auditeurs qui ne savent pas, No Limit Sécu est un podcast orienté sécu. Et quand on parle de quand ils parlent de sécu dans ce podcast, c'est à un niveau assez élevé. Mais ça peut vous donner également des exemples de problématiques de sécurité que vous pourriez rencontrer peut-être un jour ou pas. Bon. Voilà.
Ouais. Mais bon, le sujet d'aujourd'hui, là, c'est PHP. C'est PHP hein.
Voilà, c'est pas voilà, la sécurité, pas la sécurité en effet. On va se concentrer sur PHP et MariaDB.
Effectivement.
Je crois que John t'a mis de l'écho.
Alors, attends. Voilà.
Là, il a pissé tous les bonbons.
C'est direct. Ça sera ça au montage.
Ouais, je sais pas si on va réussir à rattraper ça au montage, mais ça m'apprendra à jouer avec ma table.
Après, t'es à fond, là. Tu voulais poser une question, John?
Oui. On a parlé.
Ah non, c'est pas possible, John.
Est-ce que quand je coupe, ça fonctionne?
Ben vas-y, coupe. T'as pas coupé là.
Non, parce que moi j'ai pas bougé. Hein.
Voilà, là il a coupé et ça fonctionne.
Oui.
Il a un problème avec Jack.
Non, mais c'est les risques du métier, hein, donc, et du direct surtout. Donc les auditeurs comprendront que des fois il y a un petit dérapage.
Ça dérape. Donc, ok, donc on a fini en effet la présentation. Alors, c'est vrai que moi, le cyber m'intéressait, donc c'est pour ça que je t'avais branché là-dessus. Mais en effet, on va se concentrer sur la partie PHP et MariaDB. Donc, on avait proposé aux auditeurs de poser des questions. Non, John, ça va pas le faire. On avait proposé aux auditeurs de poser des questions sur le Discord de l'apéro des papas manchots. Et donc là, on va commencer sur la partie PHP. Donc, au niveau PHP, tu as commencé à développer en disant que voilà, tu étais membre actif de la FUP, que tu développais des patchs et modules. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Donc, tu as dit que tu avais fait le module pour te connecter à Access, c'est ça, l'ODBC?
Non, c'est. J'ai participé dans la partie réalisation de ce module, de la partie documentation, mais je ne suis pas l'auteur du module qui a été lancé bien avant que j'arrive. D'accord. Dans l'univers PHP.
D'accord.
Donc, moi, j'ai participé à le rendre, à le franchiser, à l'améliorer, à proposer des outils et des solutions annexes autour de PHP pour amener à bien le langage. Et où dedans, je suis membre actif pour la partie française en niveau contribution, en niveau évangélisation.
Promotion, d'accord.
Je n'ai pas développé de nouvelles fonctionnalités dans PHP.
D'accord. Ok. D'ailleurs, depuis quand tu contribues à la FUP, ça remonte à quand? Tu as parlé de 2000, c'était encore un petit peu avant ou c'était là tes débuts?
Donc, mes premières pages en PHP et mes premières réalisations datent de 1999. L'association date de... On arrive bientôt aux 25 ans, aux 20 ans de l'association, 25 ans de...
De PHP?
Non, de PHP, oui, voilà, c'est ça. Donc, double anniversaire, en 2025, tous les 5 ans, il y a un gros anniversaire, double anniversaire, parce qu'on marque l'anniversaire de PHP et de l'association, donc c'est quand même un événement important autour du langage. Et le langage a évolué au fil des années, bien entendu. Parce que même que le langage peut être considéré un langage de garage. Enfin, développé souvent, donc ça a une mauvaise réputation, parce que c'est d'origine, c'est pour montrer que c'est facile à monter en compétence dessus, mais c'est aussi facile de trouver des morceaux de code sur Internet, sur les moteurs de recherche.
Dans les années 2000, ça pullulait d'ailleurs. Il y avait des tonnes de sites qui disaient comment faire pour se connecter à une base. À l'époque, c'était MySQL. Comment faire une page de login, etc. Enfin, ça regorgeait. Avant qu'on parle de framework, voilà, on avait des tas de sites qui proposaient tout ça.
Oui, je confirme. Puisque dedans, il y a des articles de ma part.
Ah, en plus, d'accord.
Et à l'époque, au démarrage, il y a un site qui s'appelle nexen.net. Mm-hmm. Pour les... C'était le site référence.
Ah oui, dis donc, oula, les souvenirs là. Oui, d'accord, oui, mais oui, Nexen, mais oui, ça me revient.
Oui, donc on était deux à écrire dans ce site, 7 jours sur 7. Ouais. Pas 24 heures sur 24, mais vacances compris.
Ah ouais, donc c'était, ouais, t'étais pas, t'étais à fond là, t'étais à fond.
J'étais un contributeur et un collaborateur du site nexen.net, qui était le site référence où que, ben, on a marqué les anniversaires, mais on a aussi écrit les articles sur la progression du langage, les démarrages. Donc à l'époque, on parlait de PHP 3.
Oui.
Pour nos auditeurs, on est en 2022, dans quelques semaines, sort la version 8.2.
C'est ça.
Donc à l'époque, c'était version 3. Donc depuis, PHP a énormément grandi, progressé, tout en restant dans la même logique de simplicité et de prise en main simplifiée.
Mais
c'est-à-dire que si vous prenez un hébergement gratuit ou mutualisé, vous allez avoir à disposition du PHP, du MySQL ou du MariaDB ou du Postgre à votre disposition. Donc c'est pour ça, ça tombe bien, c'est le sujet d'aujourd'hui.
C'est ça.
On va parler de PHP et de MariaDB, qui va vous permettre de pouvoir installer ou créer votre page web dans un serveur mutualisé de type free.fr ou d'autres hébergements qui vous proposent un petit espace. Donc tous les fournisseurs d'accès Internet vous proposent un petit espace pour créer votre propre page personnelle et que vous allez pouvoir le partager avec vos amis pour annoncer une information, une actualité. Tout cela, c'est disponible avec ces deux technologies que l'on parle aujourd'hui.
Tout à fait. C'est plus pour rendre dynamique un site Internet. Parce qu'à la base, il y avait le HTML qui permettait d'afficher des pages statiques, mais le PHP et MySQL, c'était plus pour rendre un truc dynamique. Un site dynamique, mettre des infos qui changeaient suivant le... J'ai envie de dire l'heure de la journée ou des choses comme ça.
Oui, comme un blog classique ou d'autres sites, oui, suivant le créneau horaire. Donc, il y a des sites qui existent que l'animateur John, ici présent, connaît, que j'ai relayé, suivant l'heure de passage. Eh bien, ce n'est pas le même message. Mais on ne va pas rentrer dans le sujet puisque le podcast est destiné à la découverte et au grand public. Et là, on arrive sur du contenu spécialisé.
Oui, tout à fait.
Donc, okay. Ce n'est pas le but d'orienter nos auditeurs. Mais pour nos auditeurs qui veulent découvrir ou même commencer à créer une page PHP, je vous dirais qu'il existe un livre qui permet de construire votre application PHP. Donc, ce livre s'appelle « Construisez votre application ». Oui. L'auteur, c'est Christophe Villeneuve. Ah bah c'est moi.
Je connais pas.
Aux éditions ENI. Alors, je vous le dis de suite, il est en rupture de stock, mais vous pouvez l'obtenir en version en ligne. Donc en ligne, je crois que c'est en PDF ou en HTML, directement sur le site de l'éditeur qui s'appelle ENI, E-N-I, et que vous allez pouvoir retrouver. Ou dedans, c'est un cas pratique, c'est-à-dire par où commencer. Et comment terminer ? Donc, c'est un livre qui permet d'apprendre, de progresser facilement. Et le cas exemple, pour vous montrer l'utilisation que moi, souvent, je donne à des stagiaires ou des stagiaires de troisième pour leur apprendre ce que c'est la programmation, c'est le carnet d'adresses. Vous avez des smartphones, vous avez des calepins, où dedans, vous écrivez les téléphones et les coordonnées de vos amis ou camarades de classe. Dessus, ben vous prenez des agendas, des petits calepins, où que dedans, il y a les lettres de l'alphabet, A, B, C jusqu'à Z. Donc ça, ben ça permet de faire des tris. C'est magique. Donc, dans le livre, on explique comment créer une page pour afficher le résultat avec des filtres, donc triés alphabétiquement. Mais pour alimenter ces pages de résultats, ben, je explique comment on crée un formulaire et comment quand on appuie sur envoyer, le bouton OK, vous savez, le bouton en bas de la page, vous faites OK, et ben j'explique comment derrière ça communique avec la base de données. Et donc, vous avez un exemple concret avec le code source documenté, différentes techniques de communication avec une base de données pour pouvoir alimenter, afficher des pages, vous identifier, vous connecter. Et derrière, en plus, j'explique comment exporter. Vous pouvez l'exporter dans un tableur type LibreOffice Calc, ou pour ceux qui sont moins friands de cette, du libre, il existe Excel.
Non, donc, non, non.
Non, mais il faut rester grand public.
LibreOffice Calc.
LibreOffice Calc, qui ou le Framacalc, qui vous permet de lire l'exportation de ces colonnes et de ces résultats que vous avez enregistrés en base de données. Donc tout cela, et on peut même l'exporter en PDF. Donc j'explique toute la totalité. Donc vous avez l'ensemble de la chaîne à travers un livre. Alors le livre, il date de pour PHP 5, mais ce sont les bases qui restent toujours en vigueur et compatibles avec PHP 8. Donc même que le livre, il est un livre de référence et qu'il est ancien, il existe depuis de nombreuses années. Il faut d'ailleurs que je sorte, l'éditeur m'a réclamé une nouvelle version, donc peut-être que dans quelques mois, il y aura une nouvelle version mise à jour. Mais le principe, il est là. Vous avez toutes les bases pour pouvoir apprendre à créer votre page, votre site dynamiquement, et que vous pouvez obtenir un espace dédié avec votre fournisseur Internet, et vous pouvez l'installer chez eux en toute confiance, et comme ceci, vous vous retrouvez avec un site merveilleux.
Oh bah génial. Donc, redis le titre du livre, c'est quoi ?
Donc, le livre s'appelle « Construisez votre application en PHP ». Donc, à l'époque, c'était MySQL. Maintenant, vous pouvez mettre MariaDB. C'est MySQL, MySQLi et PDO. Donc, les MySQL n'existent plus, a été retiré, mais vous avez MySQLi et PDO. Et la version qui est actuellement en ligne, il y a même une version « Comment programmer en version objet ». À l'origine, c'était procédural. Et dessus, j'ai rajouté en bonus, oui, parce qu'il y a toujours le bonus caché, c'est la version objet. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup parlent d'objets liés au framework. Pour appréhender ces frameworks-là, il faut apprendre l'objet. Et j'explique, il y a un chapitre dédié là-dessus, comment programmer en objet avec PHP et une base de données.
Parce que PHP, c'est faire de la programmation objet, c'est ça ?
Oui.
D'accord.
Oui, comme tout langage.
Oh, je sais pas, le basique. Non, non. Voilà.
Oui, oui. Non, mais on parle de langage moderne.
Ah, d'accord, très bien, pardon. Donc, PHP est un langage moderne, donc il faut l'utiliser. Non, je suis un fervent utilisateur de PHP, donc oui, évidemment, je fais mon bête, mais oui, PHP fait du langage objet, on peut faire des classes, on peut faire plein de choses intéressantes. On est d'accord. Et donc, une petite mise à jour de ce livre, plus pour t'orienter sur MariaDB, c'est ça ?
Oui, oui aussi. Puis aussi mettre PHP 8 en avant, supprimer les parties qui sont plus ou moins obsolètes. Donc voilà, il y a... Et puis d'autres petites choses. Comment générer de l'image en PHP ? Être graphiste en PHP ?
Ah, génial. Ah, oui, je veux faire des graphes. J'ai plein de données, j'ai plein de valeurs. Il faut que je les mette en graphes. Donc, je pourrais trouver des infos là-dedans.
Oui, oui, oui. Du genre faire un captcha personnalisé au lieu de taper ou de solliciter recaptcha que j'aime pas.
Non, parce que c'est Google, c'est mal. D'accord.
C'est ça. Donc, autant recréer son propre captcha. C'est plus rigolo.
Donc, t'as écrit un livre. J'imagine que ce que
J'en ai écrit trois, j'en ai écrit quatre.
PHP. Allez, je t'en fais 5, je t'en donne 5, allez.
Oui, parce que j'en ai deux autres, hein. J'en ai les autres qui sont orphelins, donc, mais on revient aux animaux, hein. En peluche. Bah oui, eux, il y a certains animaux qui sont privilégiés, donc ils ont des livres, et puis d'autres, ils n'ont pas encore leurs livres, donc ils attendent.
Ah, avec impatience.
Voilà, que je produise. Donc, certaines familles n'ont pas encore le livre, mais ça ne serait tardé. Je vous rassure. Que on va combler les trous, enfin les vides.
Les vides. Alors, PHP,
comme ça, chaque...
Ouais. Il n'y a pas de problème. Comme ça, chaque animal aura son propre livre.
C'est bien ça. Il n'y aura pas de jaloux.
C'est ça. PHP, donc, tu l'as dit, hein, c'est un langage qui est assez jeune, qui est apparu fin des années 90, début années 2000. Si je me trompe...
1995. Hein.
Si je ne me trompe pas, c'est un dérivé du... Enfin, ça se rapproche énormément du C, c'est ça, initialement. Hein. Ça voulait être proche du C, c'est ça?
Donc oui, PHP s'appuie sur la technologie du C. Mm-hmm. Et quand on est obligé d'ouvrir ou de patcher ou d'analyser le code, oui, c'est en dessous, c'est du C.
D'accord. Mais par contre, vu que c'est un langage jeune, j'imagine que toi, tu ne l'as pas appris à l'école, tu ne l'as pas appris à l'université, donc tu as été autodidacte là, pour apprendre ce langage et puis pouvoir écrire des livres derrière.
Oui. D'accord. Et j'ai plus tendance à être du côté du tableau que d'être l'élève qui écoute.
Mais des fois, c'est un bon apprentissage. Des fois, c'est quand on veut expliquer un truc aux gens qu'on est le meilleur, peut-être, sûrement même. Mais par contre, au niveau des bonnes pratiques, qu'est-ce qui te permet de dire aujourd'hui, ben voilà, ce que j'ai écrit, c'est les bonnes pratiques, c'est la bonne méthode. Alors, il n'y a pas qu'une seule méthode, hein, je ne sais pas ce que je veux dire, mais comment tu peux... quelles sont les bonnes pratiques? Comment toi, tu as pu trouver ces bonnes pratiques, vu que tu étais un peu précurseur, entre guillemets?
Il y avait d'autres livres.
D'accord.
Je n'étais pas le seul à produire des livres, hein, je vous rassure.
D'accord.
Et quand moi, j'ai sorti mon premier livre, il y a d'autres livres qui étaient déjà disponibles.
D'accord.
Et après, je me suis quand même aligné sur... mon expérience, parce que quand je l'ai sorti, le premier livre, c'était en 2006, donc j'avais quand même nombreuses années d'expérience, nombreux articles, nombreuses réalisations de projets web et d'applications, et donc à partir de là, bah, on peut dire, voilà les bonnes pratiques, quelles sont les conséquences, le développement. Mais avant de faire du PHP, je faisais aussi du HTML. J'ai fait d'autres langages, type assembleur.
Ah oui?
Oui, programmation système.
Ah oui, d'accord.
Comment écrire du code en hexadécimal?
Donc, en effet, tu sais de quoi tu parles, même si tu t'es documenté, tu as lu, mais tu as un bon bagage qui aujourd'hui dit, bon, ben voilà, les bonnes pratiques, c'est ça. Et justement, quelles sont les bonnes pratiques en PHP? Dis-nous tout.
Les bonnes pratiques, c'est une bonne question. Les bonnes pratiques, ça va être délicat de pouvoir le dire, mais c'est surtout de faire des tests unitaires. Dans mon livre, il y a des tests unitaires qui expliquent comment faire des tests. C'est-à-dire que 1 plus 1 égale 2. Et si normalement, je suis d'accord. Si c'est fait 1 plus 1 égale 3, je pourrais vous le prouver mathématiquement que c'est faisable. Mais on s'éloigne de la réalisation que 1 plus 1 égale 2. Donc en PHP, quand on fait 1 plus 1 égale 2, ça marche. Ça marche. Donc les bonnes pratiques, c'est surtout que tester, mais de tester automatique. Donc, il existe des librairies, il existe des systèmes aujourd'hui pour faciliter la validation du code, analyser si vous êtes conforme à la sécurité avec les bonnes pratiques. Mais comme PHP, avec une même fonctionnalité, enfin, le même souhait de réalisation, on peut le faire de différentes manières. C'est à vous d'adapter suivant son besoin. Donc, pour en venir que, à l'époque, il fallait mettre des choses en place. Mmh. Le code a évolué, les fonctionnalités sont apparues, l'objet a ramené énormément de fonctionnalités, de possibilités. Maintenant, on utilise des traits, on utilise des espèces, on utilise des fonctionnalités, on va dire, pure techniques, qui permettent de pouvoir communiquer et structurer d'une certaine manière. Et c'est pour ça qu'on a vu apparaître une émergence des frameworks.
D'accord.
Les frameworks, ce sont des librairies, des packages déjà prêts à l'emploi. Mais si on se réfère avec, quand je discute avec Rasmus, donc Rasmus Lerdhof, c'est le créateur de PHP, qui est déjà venu à plusieurs reprises aux événements de l'AFUP, de l'Association française des utilisateurs de PHP. Pour lui, PHP est déjà un framework, puisque, et j'en suis un peu dans cette logique, l'ensemble de toutes les briques, l'ensemble des constructions sont déjà disponibles. Et il n'est pas besoin de rajouter un framework supplémentaire dédié, une surcouche, pour respecter les bonnes pratiques. Après, quelle que soit la méthodologie, quel que soit le langage que vous allez être amené à utiliser, soit vous utilisez correctement le framework ou les bonnes pratiques du langage, soit vous faites votre coin, votre développement dans votre coin, et là vous retrouvez à quelque chose de reconstruire la roue.
Oui.
Et ce n'est pas le but.
Non.
Le but, c'est de pouvoir être en harmonie avec les autres paquets ou les autres solutions proposées. Les sites références qui restent actuellement par rapport aux années 2000 ou que beaucoup ont disparu, beaucoup se sont fusionnés aussi. Et ceux qui restent à l'heure d'aujourd'hui donnent les bonnes pratiques, expliquent comment amener et créer des bonnes pages web.
Donc les bonnes pratiques, c'est remettre constamment en question son code et adopter les nouvelles méthodes, les nouvelles pratiques que nous donnent les sites, c'est ça?
Oui, c'est surtout que telle fonctionnalité va mieux répondre aux besoins qu'une autre. Par exemple, les fonctions de tableau. En PHP, on appelle ça des arrays. A2RAY. En array, c'est en vérité une surcouche de la fonction objet.
Ah.
C'est-à-dire que le PHP fait en objet, mais pour faciliter la manipulation auprès des développeurs, on a une surcouche, qui est une sorte d'alias, qui est interprétée et se fait à travers le array.
D'accord.
Mais,
wow.
Mais on peut mélanger les deux.
Mmh.
On peut aller beaucoup plus loin. C'est la même chose que quand on prend la fonction afficher un message ou un résultat avec la fonction echo et la fonction print.
Ah oui.
Eh bien là, juste avec ces deux mots-là, le echo affiche bonjour et le print affiche bonjour. Vous allez dire, ouais, c'est bon, c'est la même chose. Donc oui, c'est la même chose, mais quand il y en a beaucoup et que vous faites un test de performance, il y en a un qui c'est un alias de l'autre qui va mettre pas beaucoup. Un microseconde en plus. Mais quand ce microseconde, il y a des millions de connexions, c'est plus quelques microsecondes. On arrive sur quelques secondes. Et qui dit quelques secondes peut avoir un impact important si on se retrouve avec l'utilisation de solutions qui sont en diverses et variées.
Donc ce que j'ai en train de comprendre, c'est qu'il faut énormément se documenter, tout compte fait, pour avoir des bonnes pratiques. Parce
oui.
que faire la différence entre echo et print, ou par exemple, quand tu écris une chaîne de caractères, est-ce qu'on la met en double côte ou entre simple côte?
C'est ça, c'est aussi cette interrogation qui est régulièrement soulevée. Simple ou double côte?
Double côte quand on écrit en français à cause des accents qui peuvent venir dedans. Il n'y a pas de discussion, voyons.
J'ai cru à entendre un anarchiste là, non?
Non, non, un francophone, monsieur.
Ah, un francophone, très bien.
Oh oui, donc il est important de respecter les bonnes pratiques ouais. là-dessus. Mmh. Mais je dirais plutôt sur le site php.net, mmh. vous avez la documentation qui est en français.
D'accord.
Donc, il faut juste se connecter dessus pour pouvoir voir le contenu, voir les explications. Les explications qui vous expliquent comment bien développer, comment bien respecter ou bien mettre les bons arguments dans les différentes fonctions.
D'accord.
C'est pour ça que, même que c'est un manuel assez technique, et vous pouvez vous appuyez sur mon livre. Désolé.
Autopromo, mais... allez.
Non, j'approuve.
Ah, bon, très bien. Oui. Approuvé par John, super.
Oui. Voilà, donc, non, il faut rester humble. C'est que ce livre-là perdure sur la durée parce que, par rapport aux autres livres qui souvent expliquent les fonctionnalités à travers différents exemples, mais le problème, c'est que pour moi, dans l'ensemble du catalogue qui existe en français, il n'y en a qu'un seul qui vous accompagne de bout en bout. Et j'ai vu des collègues ou des amis à moi qui ne sont pas développeurs et être capables de réaliser leur site de 3 pages, site personnel, alors que ce ne sont pas des développeurs, ce sont des informaticiens. Et grâce à mon livre, ils ont pu apprendre, créer, suivant leurs besoins, tout en restant avec quasiment pas de connaissances développement.
Oui. Mmh.
Donc c'est pour ça que j'en parle de cet ouvrage.
Mais c'est une de tes grandes forces, parce que tu te mets pas trop en avant là-dessus, mais quand même, niveau pédagogique, le niveau est là quand même.
Oui, bien sûr.
Pour te l'avoir dit déjà plusieurs fois, tu aurais été un excellent professeur de technologie.
Oui, avancée.
Avancée ou au développement, parce que tu as cette facilité-là à expliquer la chose de manière simple et limpide, là où d'autres vont trop aller dans les détails très techniques, très... comment dire ? Très spécifique, très technique, sans faire la petite image qui va bien avant.
Oui.
C'est pas donné à tout le monde pour avoir déjà essayé d'expliquer des choses assez simples à des personnes non du domaine. Je sais à quel point c'est difficile de mettre en place.
Oui. Je confirme. Donc oui, c'est. Il faut expliquer simplement et. Et lorsqu'on a envie d'apprendre, ça rentre plus facilement. Mmh. Et si on a un professeur qui l'explique bien, c'est encore mieux.
Mmh. Mmh. C'est vrai. Pour terminer sur PHP, la petite dernière question, on a développé notre site, machin, et puis ça plante de tous les côtés. Bien sûr, on est dans un environnement de dev, mais au fait, est-ce qu'il existe carrément un débugger ? Comment on peut déboguer notre code lorsqu'on développe en PHP ?
Donc en PHP, il y existe un outil qui s'appelle Xdebug.
Mmh.
Xdebug permet de débugger du PHP. C'est-à-dire que lorsque vous avez des erreurs dans une page, alors bien sûr, vous n'attendez pas la dernière minute, parce que le gros avantage de PHP, c'est que vous sauvegardez, vous faites F5 pour rafraîchir la page, et ça marche.
Oui, tu n'as pas besoin de recompiler ou de faire des choses comme ça, oui.
Voilà, donc c'est la force de PHP. Mais c'est aussi sa faiblesse, parce que si vous avez une page blanche, ça veut dire qu'il y a quelque part quelque chose que vous avez mal fait.
Un point virgule.
Par exemple, un point virgule que vous oubliez. Ou que vous oubliez de fermer la fonctionnalité. Donc une accolade. Ou une parenthèse.
Ou un htaccess qui n'est pas bien configuré.
Oui, mais ça, c'est pas du PHP, ça.
Non, ça, c'est. Mais en restant simple, vous oubliez souvent, c'est l'accolade, le point virgule en fin de ligne. Ou la simple cote ou la double cote. Et ça fausse l'application. Mmh. Et donc, si... Alors, il existe 2 solutions. La partie Xdebug, donc l'outil qui vous assiste à pouvoir tracer pas à pas parce que vous ne savez pas où est la fonction et tout semble bien, donc il y a une erreur. Donc, c'est un mode avancé. Mmh. Mais par contre, les outils d'aujourd'hui, qu'on n'avait pas à l'époque, c'est des IDE, c'est-à-dire les éditeurs riches qui vous permettent de pouvoir écrire du code facilement et lui, le code, va vous assister dans les fonctionnalités ou dans les frappes, les touches de raccourci que vous allez oublier ou ne pas faire. C'est-à-dire rajouter un point virgule ou la collade ou la fermeture d'une cote. C'est-à-dire qu'il existe Alors, il existe plusieurs outils. Moi, j'utilise principalement Atom, A-T-O-M, qui est un IDE où dessus, on rajoute des plugins en PHP. Il va vous permettre d'avoir une colorisation syntaxique. Donc, chaque mot dédié à PHP aura une couleur bien spécifique qui permet d'être sûr de pointer sur le bon argument. Et là, vous allez, si vous rajoutez une cote, une parenthèse, eh bien, vous aurez la fermeture de la parenthèse automatique. Donc, il est là pour vous assister et pour éviter d'avoir une page blanche. Alors, bien entendu, il n'existe pas que Atom. Il y a un autre outil qui s'appelle VS Code, Visual Studio Code.
VS Codeium, pas de propriétaire ici.
Qui est disponible sur l'ensemble des OS, des systèmes d'exploitation, donc Linux, Windows, arc à la pomme. Au-dessus, vous allez pouvoir aussi, donc c'est un outil qui est ouvert, dont certains de mes collaborateurs et développeurs l'utilisent. Et je suis bien entendu, comme je fais partie de leur équipe, eh bien je suis obligé de m'aligner avec le choix de la majorité. Mais je vous conseille principalement Atom, que lui, il est 100% libre et qui vous permet de pouvoir construire directement ben, vos pages PHP et il vous aiguillera à corriger déjà une partie des erreurs. Mais lorsque vous avez du contenu qui est affiché, donc là, tout est beau, tout est merveilleux, vous êtes sûr que le code est bon puisque l'IDE, le logiciel, vous a donné toutes les bonnes pratiques en niveau fermeture, point virgule oublié, etc. Donc là, vous êtes sauvé. Mais par contre, des fois, vous pouvez obtenir des résultats incohérents. Surtout si vous connectez à une base de données.
Oui, ou quand on fait quand on fait un if et qu'au lieu de mettre un double égal, on met un simple égal, par exemple.
Par exemple, ou que vous faites. Vous interrogez la base de données pour afficher un résultat, vous oubliez un symbole, vous oubliez un caractère ou le résultat retourné de la requête, il vous faut un outil plus avancé de type Xdebug qui va vous aider à corriger pas par pas l'ensemble des fonctionnalités et vous verrez exactement l'endroit où que le code se bloque.
D'accord, et ça t'affiche également le contenu des variables alors au fur et à mesure que tu exécutes, c'est ça?
C'est ça. Vous avez un couteau suisse dans Xdebug qui vous permet de pouvoir vous aider à corriger et à résoudre ben, les anomalies ou les erreurs ou les fautes de frappe que vous avez pu réaliser, enfin effectuer sans le vouloir, bien sûr. Et qui puisse, on va dire, faciliter ben, la réalisation de votre projet ou de votre site web.
Xdebug, d'accord. Il est téléchargeable sur les distributions, dans les paquets. Il est disponible dans les paquets ou on l'installe comment tu le sais, non?
Oui.
Je te piège peut-être.
Si. Vous tapez Xdebug dans les paquets. C'est php-xdebug.
D'accord.
Qui est compatible avec l'ensemble des distributions Linux. Principalement Linux qui est important de connaître par rapport à d'autres systèmes. Mais vous tapez Xdebug, vous avez php-xdebug, il est associé avec PHP. Donc, quand vous installez, ben, vous installez l'ensemble de l'extension et de PHP pour pouvoir s'en servir.
D'accord. php-xdebug, très bien, à chercher dans les paquets. Ok, bon, ça c'est pas mal. Autrement, il y a le site internet pour avoir plus d'infos, j'imagine.
Oui, aussi, vous tapez dans un moteur de recherche préféré et vous tapez Xdebug et vous arrivez sur la page officielle et explique comment l'installer chez vous.
Ben, je regarderai ça avec intérêt. Très bien. Deuxième partie, qui dit PHP? Donc tu as déjà parlé un petit peu de base de données. Historiquement, PHP était associé peut-être à tort avec MySQL. Petite base de données open source qui s'installait relativement facilement aussi bien sur une distribution Windows que Linux. et coup de tonnerre dans le...
Et Marc à la pomme hein, aussi. Hein.
C'est vrai, mais je connais pas. Je ne parle pas de ce que je connais pas. Et coup de tonnerre, on a entendu un moment, enfin en tout cas, certains ont vu, ah tiens, c'est plus MySQL, ça s'appelle MariaDB. Pourquoi il m'installe MariaDB alors que j'installe MySQL? C'est quoi cette bêtise? Pourquoi cette transformation d'un seul coup?
Alors, je vais vous expliquer. Ah. Moi, je connais l'histoire.
Moi aussi, je l'ai entendu
je
il n'y a pas longtemps.
Bon, dans les présentations. je vais le dire. Ah, tu m'en veux pas, John
Ah non, non, c'est un plaisir de la rencontre.
Oui. Donc, à l'origine, c'est MySQL. MySQL est une base de données libre. C'est-à-dire que n'importe qui peut s'en servir, l'utiliser pour les projets. Et comme c'est une base de données libre et que PHP a apparu à peu près à la même époque, ben, PHP et MySQL souvent ont été associés pour la réalisation des projets. MySQL a eu un tournant. Un tournant parce que Sun, qui était une compagnie, a racheté MySQL. Et Sun s'est fait racheter par Oracle. Une compagnie avec une approche différente, puisque Oracle est une autre base de données. Le fondateur, qui s'appelle Monty, que j'ai rencontré déjà à plusieurs reprises, n'était pas dans la vision d'origine. Donc, il a été en désaccord sur l'orientation de la base de données, surtout que Oracle n'a jamais souhaité libérer cette base de données. Donc, Monty, le créateur de MySQL, a décidé de lancer un nouveau projet sous le nom de MariaDB. MariaDB est un fork. Donc, le fork, c'est on prend le cœur d'un projet type MySQL et on va le reformuler, mais en gardant le cœur. C'est-à-dire que c'est le même code source, le même cœur, mais refait d'une autre manière. Pourquoi ? MariaDB a été lancé, c'est parce que MySQL était une société qui a été maintenue et qui, comme dit société, dit rachat. Non, MariaDB, c'est une fondation. Une fondation, c'est une association comme en France, une association 1901, c'est-à-dire qui n'est pas là pour générer de l'argent. C'est une association pour garantir que le produit ne pourra être jamais racheté. Depuis, MariaDB a grandi en réalisant, en proposant des nouveaux projets, en rajoutant des fonctionnalités, des futurs, des nouvelles possibilités de mélanger. Et c'est pour ça que maintenant, solution Linux, par défaut, propose MariaDB, qui est une base de données libre, qui reste dans l'univers et l'esprit Linux, mais abandonner MySQL parce que la licence MySQL appartient au groupe Oracle et Oracle est une autre base de données avec une approche différente. Alors pourquoi déjà ces deux noms-là, MySQL et MariaDB? Monty, le créateur de la base des deux bases de données, a deux filles. Une fille qui s'appelle Mai. Donc en finlandais, c'est Mu. Donc ça s'écrit M-Y. Et il a une deuxième fille qui s'appelle Maria. Vous voyez les rapprochements? Donc une a le nom MySQL et l'autre s'appelle MariaDB. Maria Database. Donc chacune des filles.
Bon, il ne faut pas qu'il en ait une troisième parce qu'on aurait une troisième base de données, c'est ça?
Le troisième effet. C'est même mieux que ça. Monty a un fils qui s'appelle Max, et il a sorti MaxQL, scale pour échelle. C'est-à-dire que c'est pas une base de données, c'est un connecteur qui permet de répondre aux problématiques du web d'aujourd'hui. Interagir avec du NoSQL, répondre aux problématiques d'aujourd'hui qui est le big data, l'intelligence artificielle, le cloud, le nuage, le Kubernetes, les objets connectés, de pouvoir interagir avec d'autres bases de données, de pouvoir communiquer, faire de l'interopérabilité, c'est-à-dire dans un sens comme dans l'autre, tout cela, eh ben, il faut une sorte de couteau suisse. Et là, on a Maxwell. Donc, les trois enfants de Monty. Bon, je vous rassure, il y a l'enfant après.
Bon.
Mais, okay. Mais voilà, ça c'est la petite anecdote, une petite parenthèse qui permet de montrer que l'ensemble d'origine des acteurs de MySQL, ce sont tous des portures du MariaDB pour sa souplesse et puis surtout son évolution et surtout sa garantie de rester sous un projet libre, sous une licence libre, de pouvoir s'en servir au quotidien sans avoir un risque tôt ou tard d'avoir, bah, comme on a pu voir dans MySQL, de rachat en rachat et de se retrouver dans un éloignement de la licence libre qui est proposée de base.
Ouais, mais Oracle, c'est des gentils, ils disent rien sur les licences database. Pardon, excusez-moi, j'ai dérapé. Oracle, si vous nous écoutez, bisous.
Pardon. Donc, l'approche est complètement différente. C'est pour ça que MariaDB est la base de données qui est assez active. Et MariaDB, c'est une Atari. Et c'est pour ça que j'en parle énormément, parce que j'y crois. À l'époque, avant l'apparition de ce chamboulement, j'étais autour de MySQL, qui était un dauphin. Donc, avant, je dressais des dauphins. Maintenant, je dresse des Atari. Et qui vont très vite aussi, donc qui répond aux besoins et surtout aux besoins du libre. Et ça tombe bien parce que je fais du libre, donc, et en plus, je suis dans une émission autour du libre, donc c'est super.
Ouais, mais c'est, et est-ce que tu, parce que je pense qu'il y a d'autres bases de données, enfin, je veux dire des gros mots, mais donc il y a Oracle, il y a MySQL. Pardon, il y a Microsoft SQL. Alors certes, c'est pas des bases de données libres, gratuites. Pourtant, il y a eu des tentatives là de ses concurrents à utiliser. Par exemple, Microsoft a proposé de l'Express, mais c'est vrai qu'on pouvait pas proposer des produits payants derrière avec. Mais il y a une autre base de données là et qui est en train de s'imposer également, qui est pas nouvelle d'ailleurs, hein, qui est PostgreSQL. Est-ce que tu connais?
Donc oui, je connais PostgreSQL. PostgreSQL, c'est le logo et juste la tête de l'éléphant. Donc c'est par rapport à PHP qu'on parlait. PHP, c'est donc Vincent Pontier, le créateur de l'éléphant. Donc on pourrait en parler des mascottes de sujet, mais c'est pas le sujet du jour. Mais PHP, c'est l'éléphant complet. Là, c'est un demi-éléphant pour PostgreSQL. Donc ce demi-éléphant est une base aussi libre, mais la particularité, c'est que c'est un groupement de sociétés qui maintiennent ce projet, et c'est, alors que MariaDB est une association mondiale, c'est-à-dire une fondation.
D'accord.
Donc ce sont deux approches différentes, et souvent, MariaDB propose déjà tout embarqué, le système tout en un, alors que Postgre, il faut installer plusieurs programmes les uns à côté des autres, pour amener à bien la même approche. Bien sûr, PostgreSQL est beaucoup plus impliqué et a beaucoup mieux communiqué pendant cette étape de transition à l'époque de MySQL et MariaDB. PostgreSQL a plus communiqué en France, mais MariaDB est beaucoup plus impliqué en Europe complète, en Europe entière. Un peu moins en France, qui sont en train de rattraper leur retard, mais on se retrouve, je confirme, avec deux bases de données qui sont libres, MariaDB et PostgreSQL. Chacune va répondre à une problématique ou un besoin spécifique. Donc, les deux sont compatibles avec PHP. Les deux sont disponibles dans la majorité des développements et des projets et des hébergés. C'est-à-dire que si vous prenez n'importe quel fournisseur d'accès, ou d'hébergement pas cher ou d'entrée de gamme, style Easy Hébergement, eh bien, vous pouvez trouver ou choisir une des deux bases de données. Principalement, de plus en plus, beaucoup s'appuient sur les distributions Linux et proposent deux bases MariaDB qui répond au mieux aux problématiques de gestion des paquets, des solutions Linux, etc. Mais la base de données Postgre, il n'y a pas qu'elle. Il y en a d'autres. Hein.
D'accord.
Quand on prend du NoSQL, donc on va dire, ces deux bases-là sont des bases de données relationnelles, ce sont des bases historiques. Depuis, la base de données a évolué. Qui dit évoluer, dit gérer des volumes beaucoup plus importants ou différents. Comme vous pouvez, si vous êtes amené à réaliser ou à jouer, eh bien, il va y avoir besoin de gérer un certain type de volumétrie de données en continu.
Un requêteur textuel ne sait pas manipuler des coordonnées ou des formes géométriques, ouais. C'est ça la différence.
Si, MariaDB sait le faire.
Oui, non, mais c'est pas ce que je voulais dire. C'est que suivant, en effet, la typologie, c'est pour ça que c'est important également de bien typer ces données dans une base de données, parce que derrière, ça va orienter le moteur pour pouvoir faire vos requêtes derrière, en effet.
C'est bien ça. Donc, suivant le besoin, on choisira une plus que l'autre, mais souvent, lorsqu'on commence à manipuler des graphismes, des objets virtuels, manipuler, on va dire, du laser, des choses. Donc, on arrive sur de la réalité augmentée. Et là, la réalité augmentée, il nous faut pouvoir répondre aux besoins. Et qui dit répondre aux besoins, dit un format spécifique. Et sur le format spécifique, c'est un format qui s'éloigne de la base de données relationnelle, là où on stocke le login et le mot de passe. Mais là, on va parler de volumétrie ou de manipulation de points. Qui dit point dit représentation graphique. Et là, il faut pouvoir être capable de pouvoir gérer de la volumétrie de données et de la volumétrie importante. Parce que imaginez que votre carte de jeu, il y a juste un ou deux pixels ou un ou deux points. Style pour dessiner une épée, ben, si vous ne le faites pas correctement, vous avez beau mettre des graphismes de tuerie, mais si vous ne mettez pas l'animation ou la communication ou la coordination, eh bien la manipulation de ces cartes peuvent être moins intéressantes dans la réalisation de votre projet ou dans votre jeu ou en pleine partie. Donc, votre jeu va avoir moins d'intérêt. Mais là, on dérive du sujet
carrément.
De la base de données.
C'est ça, là, tu nous fais un cours sur le choix de la base de données. On est d'accord.
Mais c'est important, parce que même qu'on parle de PHP MariaDB, mais on aurait pu faire du PHP avec du PostgreSQL. Moi, mon cœur, c'est MariaDB.
Oui, j'entends bien. On aurait pu faire du SQL Lite, du SQL Express, etc. On est d'accord. On est d'accord.
Oui, voilà, c'est ça.
On est d'accord. Il y avait une autre question également sur MariaDB. Alors, c'est Morgan qui a posé cette question. Aujourd'hui, on entend beaucoup de, on a beaucoup de d'offres qui s'appellent des offres type cloud. Alors, je sais pas comment défendre la question de Morgan, donc je vais te la lire telle quelle. Il dit comment se positionne MariaDB par rapport à Postgre dans les offres cloud. Je pense qu'il doit sous-entendre que dans les offres cloud, Postgre est peut-être plus mis en avant. C'est peut-être, ça rejoint peut-être ce que tu disais tout à l'heure, c'est peut-être la communication qui a fait Postgre, c'est ça?
Oui, il y a la communication, mais moi je dirais que MariaDB répond, il y a un format intégré dans MariaDB, version, pour l'instant version entreprise, mais là tout récemment, c'est-à-dire il y a 15 jours, donc c'est tout frais, hein, ça date de novembre 2022, il y a un morceau de Docker qui a été proposé, donc c'est un storage engine, donc c'est une évolution pour faire du SQL distribué sous le nom de Xpand.
Ah oui, d'accord.
Xpand.
D'accord.
Ce format-là qui était principalement dédié à l'environnement Big Data, AI et du cloud répond parfaitement et en plus ça a été récompensé comme base de données au niveau évolution et interaction avec le web d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce format-là, qui existe déjà depuis 2 ans, eh bien, a été récompensé, mondialement reconnu, comme innovateur. C'est-à-dire, et qui s'aligne sur les bases propriétaires du marché.
D'accord.
D'ailleurs, tu as pu citer quelques noms de grands groupes de sociétés qui proposent des bases de données sous licence. Et là, MariaDB intègre joue dans la même catégorie.
D'accord.
Par rapport à Postgre, qui Oui, permet d'utiliser des communiqués directement dans du cloud, mais il a été forqué par un autre nom, dont j'ai perdu le nom, dédié au cloud. C'est-à-dire, c'est du Postgre, mais sous un autre nom. Parce que Postgre qu'on connaît actuellement ne répond pas aux mêmes problématiques de volumétrie, de complexité, qui est demandé aujourd'hui sur des évolutions futures. Et Postgre a directement fonctionne. Il n'y a pas de contradiction là-dessus. Mais propose l'auteur principal, celui qui a créé Postgre, a sorti une nouvelle version de Postgre, donc il l'a forqué, dédiée au cloud pour répondre aux besoins d'aujourd'hui.
D'accord. D'accord.
Alors que MariaDB, c'est tout natif, avec le même nom, c'est transparent.
D'accord, d'accord. Et donc toi, revenons sur ton implication dans MariaDB. Donc je rappelle, tu es membre de l'association Le Mug. Tu disais même que tu étais le président, c'est ça, si j'ai bien compris?
Oui, c'est ça.
Oui, oui, oui. Oui.
Voilà. Et
je suis en charge d'animer.
Voilà, c'est ça. Est-ce que tu... Comment, en tant que président, comment tu... est-ce qu'il y a plus de monde qui suit tes animations, ou est-ce que tu vois un petit déclin justement face à Postgre qui prend de l'ampleur?
En niveau animation, en niveau communauté, comme il y a eu une période de relâche, ou que l'activité d'animation a été freinée, parce que avec ces différents changements, il fallait reconstruire les offres, il fallait reconstruire les possibilités par rapport à PostgreSQL, mais les deux sont complètement différentes, rassemblent autant de monde. Alors il y a ceux qui sont pour une base de données par rapport à l'autre, et vice-versa, mais on ne peut pas les comparer. On va dire que pour moi, je vois toujours du monde une évolution régulière, mais est-ce qu'une base de données va être freinée? Là, actuellement, il y a d'autres bases de données. Il y a un site qui s'appelle DB Engine, donc DB Engine, en français, .com, qui liste l'ensemble des bases de données. Il y en a environ 1500.
Ah oui?
Oui. Donc, il y en a quelques-unes qui sont plus actives que d'autres. Bien sûr, une utilisation plus intensive que d'autres. Et là, on se retrouve avec une complexité de base de données. Et beaucoup voient apparaître des nouvelles bases de données. Certaines sont bien, d'autres moins bien. Mais sont là pour répondre à un besoin précis.
On est d'accord.
Et ce besoin est lié souvent avec l'outil, le besoin, la complexité de la réalisation de l'approche du projet d'aujourd'hui. Quand on parle de laser, quand on parle de drone, quand on parle de comportement d'objets connectés ou de caméras qui surveillent, on ne peut pas mettre les mêmes bases de données. On ne peut pas se permettre de dire qu'on va embarquer du MariaDB ou du Postgre, même qu'on peut le faire, mais ce n'est pas optimisé pour répondre à un besoin précis. Et là, on va s'orienter sur d'autres bases de données. Là, dernièrement, il y a un langage qui s'appelle Rust, que je connais, qui a été réalisé les premières briques par la fondation IA. Ce qui est donc, ça a été intégré dans Firefox. Maintenant, Rust est un langage qui est beaucoup plus bas niveau. Et bien, ils ont réalisé une autre base de données qui n'a rien à voir avec le marché, pour répondre à machine, c'est-à-dire du hard, le hardware. Vous savez, quand vous avez un Raspberry Pi, un Arduino, ou qui a très peu d'espace, eh bien, il y a eu, et on est proche là, quasiment comme si on programmait de l'assembleur, vraiment très très bas niveau, de l'embarquer. Eh bien là, on ne peut pas se permettre d'embarquer des bases de données qui sont très bien. D'avoir des bases de données, on va dire, très légères pour pouvoir se greffer là-dedans et d'interagir avec elles. C'est pour ça que aujourd'hui, et quand j'annonce 1500 bases de données, il y en a sûrement beaucoup plus, puisque j'ai pas le chiffre exact en tête, mais pensez que, suivant ce que vous allez réaliser ou développer, vous avez la base de données associée, Bien sûr, si vous l'emmenez après du côté front, du côté navigateur ou à travers PHP, là, vous pouvez retourner sur les standards. Les standards qu'on parle d'aujourd'hui, bah, pas comme MariaDB ou à la rigueur PostgreSQL. Désolé, j'ai une petite préférence pour une des deux.
Oui.
Mais il faut faire comprendre que les bases de données, il y a du choix. Il y a du choix vraiment important. Et suivant les problématiques, vous pouvez même rajouter de la base de données, type base de données en mémoire, sur, pour améliorer les performances de votre site web. Cette base de données s'appelle Redis. Mais il y a un storage engine qui existe dans MariaDB qui permet de faire la même chose. Donc vous voyez, on se retrouve une qui est vraiment dédiée, qui fait que ça, c'est son cœur de métier, mais l'autre qui est un peu couteau suisse, qui permet de pouvoir dire je peux faire aussi la même chose sans besoin de rajouter cette brique supplémentaire. Donc c'est, on va dire, c'est du cas par cas. Mais pour le grand public, pour vous qui commencez à réaliser votre page web, je dirais choisissez l'hébergeur que vous avez accès au prix qui vous convient. Dessus, regardez quelle est la base de données qui est proposée, quel est le langage, donc souvent c'est PHP. Derrière, vous avez différentes bases de données qui sont disponibles. Si vous avez le choix, je dirais, partez sur MariaDB. Si vous avez envie de partir sur une autre type de base de données, rien ne vous empêche de le faire.
Et justement, parce que généralement les sites web, c'est plus pour stocker en effet des logins, mots de passe. Généralement, c'est des petits sites web. La base de données n'est pas extraordinairement grosse. Hein. Généralement, les bases de données des petits sites font 30, 60, 100 mégas. Est-ce que Elite pourrait répondre également aux besoins de ces sites web?
Donc, pour répondre à cette question, par exemple, si vous voulez utiliser un CMS. Les CMS, c'est des outils qui sont déjà pré-packagés et après, il n'y a plus qu'à construire les templates ou la mise en forme. Donc, pour créer indirectement un blog. Donc, vous avez
Drupal, WordPress,
Joomla. Voilà, ce sont les trois principaux. Les trois utilisent la technologie PHP. Mais il existe aussi une alternative à WordPress qui est vraiment dédiée grand public pour le blog. Ça s'appelle Doctir. Doctir. Doctear.
Ouh, ça faisait longtemps que j'en avais pas entendu parler, ouais.
Donc, c'est un projet, c'est un système de blog qui est utilisé par des médias. Moi, je m'en sers, je suis très content sur un de mes sites personnels, eh bien, qui permet d'avoir le contrôle. Et que ce fou, le gros intérêt, c'est que c'est français. Alors que WordPress, c'est américain. Donc, même que le code est ouvert, que tout est libre et que vous pouvez vous en servir, j'aime bien les projets français. Peut-être parce que je suis en France.
Il faut soutenir les projets français.
Il faut soutenir les projets français. Et donc, ce projet permet de pouvoir être compatible avec PHP et les bases de données MariaDB ou Postgre. Donc, vous avez le choix pour réaliser votre site. Et là, quand je parle de blog simple, de blog, c'est pour du genre, vous voulez faire publier ou mettre une galerie photo de vos dernières vacances, ou mettez un message ou du contenu, parce que vous avez envie de partager des informations ou des réactions ou de vos réalisations. Donc là, il y a un intérêt d'utiliser un blog. Et là, un espace allégé, un espace mutualisé vous permet de pouvoir répondre à cela.
Ok. John, tu voulais poser une question, je crois.
Oui. Il y en a plein.
Pas besoin de répéter, alors.
Oui, je t'écoute.
Alors, il y avait... Tout à l'heure, je n'ai pas fait attention. Tu peux nous rappeler le pourcentage d'adaptation de MariaDB en termes de code purement MySQL? Ce serait une petite info qui, je pense, ferait peser dans la balance. D'un certain certaine conférence qui date d'il y a deux semaines, une semaine. Tu en as parlé et c'était très intéressant. Et ça serait dommage que tu ne mettes pas ce petit pourcentage.
Ce pourcentage, j'ai parlé de ça. Alors je suis désolé, je dois avoir eu un coup de mémoire, mais...
En termes de... Quand on met en application, dans le cadre d'une migration de MySQL vers MariaDB, par exemple, le taux de pourcentage sans modification de la requête...
Ah bah oui, 100%, c'est transparent. C'est-à-dire que vous pouvez... vous utilisez MySQL et vous avez envie de changer, de passer sur du MariaDB. Au hasard, hein. Vraiment au hasard. Donc vous pouvez le faire et au niveau compatibilité, ça marche parce que c'est le même cœur. C'est-à-dire que vous pouvez, avec MariaDB 5.5, être interchangeable avec MySQL. Maintenant, MariaDB, c'est la version 10. Donc, quand vous partez d'un côté, le but, c'est de ne pas revenir en arrière. Mais par contre, le gros intérêt, si vous faites la bascule, c'est que vous allez gagner entre 200 et 700% de performance. C'est-à-dire de rapidité. C'est-à-dire que la base de données a été optimisée pour être beaucoup plus puissante, interactive et répondre aux besoins d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle va consommer moins de ressources, ce qui est quand même important, de pouvoir consommer moins de ressources et de gagner de la performance et du temps de réactivité avec le langage comme PHP ou d'autres langages. J'ai répondu à la question ?
Oui. Les pourcentages qui m'avaient interlocuté sont ressortis, donc je pense que c'est pas mal pour donner une idée de toutes les possibilités qu'offre MariaDB.
Oui, c'est la puissance, oui, je confirme.
Donc, sachant qu'en plus, elle est dans plusieurs domaines différents. J'ai envie de dire, ça va plus vite de dire pourquoi MariaDB n'est pas fait ou n'est pas compatible.
Pourquoi n'est pas je ne sais pas, à ma connaissance, il n'a pas.
C'est ce que je disais, c'était plus rapide.
Ah oui.
Il y avait une autre question aussi, mais je ne la retrouve plus.
Ah.
Oui, c'était est-ce que MariaDB fait du stockage objet ?
Oui, on peut faire de l'objet dans MariaDB. On peut le faire sans problème. C'est-à-dire que MariaDB, c'est le fork de MySQL. Ça, je pense que vous l'avez compris. Mais pour être compatible, il faut pouvoir intégrer, par exemple, du JSON. Le JSON est un format encore différent. C'est-à-dire, c'est un protocole comme du reste. Et qui dit reste, dit structure. Qui dit structurel, on peut mélanger de l'objet ou des tableaux. Donc on se retrouve avec une multitude de possibilités et on peut manipuler dans une même requête, vous avez vos colonnes avec des informations et dedans, vous pouvez rajouter de l'objet dynamique que vous avez généré précédemment sous la forme de NoSQL ou de JSON ou d'autres formats, tout ça interagit de façon dynamique pour obtenir le tout dans une seule requête. Donc il est possible de tout mélanger, objet sans objet en tableau, dans une requête SQL, pour éviter de faire des allers-retours entre PHP et la base de données. C'est-à-dire que tout est manipulé du côté de la base de données, et vous n'avez plus qu'à récupérer et à traiter le résultat pour l'afficher dans une page web. Ce qui permet de faciliter l'opération.
Oui. Ça gagne du temps.
Oui, ça gagne du temps. Et surtout, ça évite que... imaginez, vous appelez, vous vous connectez à la base de données, la base de données, ok, répond, ok, je suis prête. Vous interrogez la base de données, donc une deuxième requête, la base de données va vous retourner un résultat. Ce résultat-là, il va falloir le... Vous allez obtenir une clé, une information. Vous réinterrogez la base de données pour demander le détail lié à cette clé. Bon, ça fait comme beaucoup d'appels d'aller-retour. Alors que là, le grand intérêt, vous envoyez le paquet de données et MariaDB, quand c'est programmé de son côté, correctement, eh bien, vous pouvez obtenir le résultat. Au lieu de faire 4-5 allers-retours, ben, vous n'avez qu'un seul aller-retour. Ce qui évite de faire des allers-retours et vous gagnez du temps.
Et donc, de la ressource et donc un informatique plus vert.
Aussi. Aussi, oui, la partie énergie peut être importante à connaître et puis à appréhender.
Et en termes de, comment dire, pour une base de données de clés similaires, enfin, du nombre d'entrées similaires, tu aurais une idée de la différence de comment dire, de stockage que, qu'engendre MariaDB par rapport à du PostgreSQL ou du SQL.
Alors, pour tout ce qui est valeur entrée, là, on peut aller beaucoup plus loin. Il existe un storage, disons, un connecteur qui permet d'insérer des données en masse. Quand je dis données en masse, c'est-à-dire que on parle de péta de données, donc c'est au-dessus. Donc le péta, c'est.
Vous avez 10 000 les autres. Tera, non ? Ou 100 000 tera ?
100 000 ?
Ah, c'est 100 000.
Oui, parce qu'il y a le giga, le tera, et puis après, on va passer au péta. Donc c'est la taille. Mais bon, là, c'est pour des plateformes qui ont beaucoup de trafic, beaucoup de volumétrie de données, des volumétries qui sont très importantes. Par exemple, rappelez-vous, si vous regardez la météo, quelle que soit la chaîne qui l'émet, donc vous regardez la météo, et souvent il y a une référence en disant « Aujourd'hui, il y a 100 ans, vous pouvez avoir, on avait telle température à tel siècle, etc. » Bon, il y a 100 ans, j'étais pas né. Hein. Enfin, je pense que vous, auditeurs, non plus. Mais par contre, ce type d'information, derrière, pour savoir et avoir identifié que dans 100 ans ou dans 150 ans, on avait ce type d'information, il faut que la base de données soit capable de pouvoir retourner cette information. Et bien, cette information, derrière, c'est du MariaDB. C'est-à-dire qu'elle est capable de pouvoir répondre instanté, rapidement, à cette volumétrie de données. Parce que vous n'allez pas vous amuser à aller à la Bibliothèque nationale pour chercher quel est le jour où il faisait doux en hiver. Et là, nous sommes en novembre. Donc, il est important d'avoir des outils pour pouvoir faciliter la recherche. Et ce type d'interrogation de volumétrie, c'est utile. Et MariaDB est là pour répondre à ce besoin.
Ok. Ça fait partie des bonnes réponses.
Merci. Je donne toujours des bonnes réponses.
Oui. Je pense que pour la partie MariaDB, on a bien fait le tour. Faut laisser un petit peu encore de
suspense. De
oui, voilà, de suspense, de petites. Il en manque un peu, comme ça.
Il reviendra, Christophe reviendra.
Oui, je reviendrai une autre semaine. Comme le gagnant du jour, j'ai gagné et j'ai le droit de revenir.
Voilà, c'est ça. On fait la partie WTF.
Oui.
Ok, donc comme annoncé, on avait trois parties dans ce podcast. Donc la partie PHP, la partie MariaDB. Et maintenant, on va passer à la partie What the fuck, en fait, qui a un espèce de pot pourri des questions qu'on a eues sur Discord. Alors, Je précise, c'est une sélection. Hein, on n'a pas pris toutes les questions pourries. Donc,
Toutes.
Ah, il y en a même qu'on a inventé.
Ah, voilà. Donc attention, ça va glisser. Alors, là, c'est un combo. On a eu. Alors, c'est peut-être un auditeur qui voit fleurir des offres SaaS, PaaS, BaaS. C'est plus dans les offres, j'ai envie de dire, pour les entreprises. Hein, donc, les offres des services à la demande. Au lieu aujourd'hui d'acheter une machine ou de louer une machine et d'installer ses services, ce qu'on va faire, on va payer un éditeur ou un prestataire qui va nous proposer un service au lieu de nous proposer une machine. D'ailleurs, le plus grand, j'ai envie de dire, aujourd'hui, celui qui inonde le marché, c'est Microsoft avec sa suite Office. Voilà, la Office Online, ça peut s'apparenter à du SaaS. Oui, ça me fait mal à la gorge, le fait de prononcer ça. Et justement, Christophe, on voulait avoir ton avis, vu que tu touches un peu à tout, on voulait avoir ton avis justement sur ces offres PaaS, BaaS. Qu'est-ce que tu en penses d'un point de vue programmeur, d'un point de vue informaticien? Quel est ton avis?
Donc, pour répondre à cette problématique de PaaS, BaaS, SaaS, toutes les offres liées au cloud, donc ce sont des offres de services principalement. C'est-à-dire que vous créez votre compte et vous allez choisir la base de données en un clic. Et puis dessus, il vous aura déjà préinstallé différentes briques, différentes solutions, différentes paramètres de votre base de données. Vous pouvez augmenter à travers leur interface une configuration. C'est pour ça que c'est à ce service, c'est que vous pouvez lui dire « Ah, j'ai pas assez de mémoire, donc je vais modifier la mémoire. J'ai pas assez de CPU, de puissance processeur, je vais l'augmenter. » Bon, bien sûr, à chaque fois que vous changez la molette et que vous augmentez, le prix aussi augmente. Hein. On ne reste pas quand même au même prix, parce que le service n'est pas le même. Quand vous choisissez style votre téléphone avec 4 mégas ou 8 mégas, vous allez me dire « ouais, c'est pas grand-chose ». Mais si vous prenez une photographie avec votre appareil téléphone, c'est-à-dire un smartphone, eh bien, vous allez être plus intéressé à avoir du 8 parce que vous allez pouvoir avoir une qualité de l'image meilleure. La même chose que, enfin, bien sûr, ça va jouer aussi sur la lampe ou l'appareil photo, mais plus de mémoire dit possibilité de stocker plus d'informations. Et donc, ces offres-là sont différentes. Alors, me positionner sur une offre PaaS, BaaS ou SaaS ou de tout ce que, ou IaaS, je dirais que c'est la tendance, au lieu d'avoir des hébergements, jusqu'à présent, on avait des hébergements mutualisés ou des hébergements en machine virtuelle, c'est-à-dire des VM, c'est-à-dire que vous avez votre espace, vous dedans, vous mettez votre base de données, tout va bien, dans le meilleur du monde. Mais il n'y a que votre espace, que votre base qui se trouve dedans. La partie BaaS, à partir des offres d'aujourd'hui, sont aussi des offres cloisonnées. C'est-à-dire qu'il y a, quand vous avez votre compte, vous êtes le seul propriétaire à cette base de données, mais l'espace en dessous est partagé. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec du mutualisé, mais virtualisé. C'est-à-dire dans des espaces où on ne se rend pas trop compte où sont stockées les données, mais elles sont stockées et qui vous permettent de mettre à disposition une sorte de machine virtuelle, mais beaucoup plus moderne. C'est pour ça qu'on a des offres de services qui sont proposées. Ces offres-là sont souvent mises en avant comme gratuites. Donc, dans un sens, oui, c'est gratuit, mais ce qui est payant, c'est la consommation. C'est pour ça que qui dit consommation, c'est les appels. Quand quelqu'un se connecte, quand vous faites les appels avec votre langage, PHP avec MariaDB ou PHP Postgre, oui, vous avez installé de votre choix votre système d'exploitation, comme un Linux, un Debian par exemple, pour ne pas les citer, et dessus vous aurez mis votre PHP, vous aurez mis une base de données de votre choix, et puis vous vous trouvez dans un espace, et si vous trouvez que votre espace n'est pas assez grand, vous modifiez les réglages et ça devient interactif par rapport à ce qu'on pouvait exister avant en machine virtuelle. C'est-à-dire que quand vous aviez 10 gigas d'espace et que vous aviez besoin d'un peu plus de place, il fallait casser pour pouvoir recommencer. Alors que là, vous n'avez plus ce problème de barrière ou de limitation parce que le disque dur est atteint. Là, c'est directement des réglages à travers une interface. Donc d'un côté, c'est facile, c'est beaucoup plus facile à manipuler, c'est beaucoup plus simple. De l'autre, là, vous êtes un peu plus tributaire des possibilités qui vous sont proposées. Donc vous vous retrouvez un peu plus cloisonné, même que c'est plus souple et beaucoup plus modulaire, mais vous êtes confronté à ce type de problème de vous poser la question de quelle offre que j'ai besoin et vous dire que le pass, la plateforme as a service, il va stocker principalement les langages ou le système d'exploitation. Le back-end va être plus orienté sur un environnement dédié à du PHP, mais vous pouvez aussi rajouter des offres dédiées sur la base de données. Et comme vous le voyez, là, je vous ai expliqué trois services différents, c'est-à-dire trois abonnements différents et pour stocker morceau par morceau.
Oui, on va partitionner l'offre en fait. Avant, on vendait une machine que maintenant on va vendre des propriétés en fait. On va vendre des options. Des briques.
Ce sont des briques que l'on vend. Donc,
l'avantage, l'avantage à mon avis, c'est que lorsque tu souscris à ce genre de service, c'est que tu fais plus l'architecte, tu ne fais plus le DevOps, tu mets plus en place d'infrastructure.
L'infrastructure est déjà disponible, donc on vous le met à disposition.
Et préparamétré,
et après vous n'avez plus qu'à affiner. Donc en quelques clics, vous vous trouvez avec un espace dédié sans avoir besoin d'avoir des connaissances poussées là-dessus.
Par contre, à l'inverse, parce que c'est un peu ça qui est en train d'inonder le marché actuellement, ça appauvrit également la connaissance du matériel, la connaissance de savoir ce que c'est réellement une base de données, parce qu'aujourd'hui, c'est des boutons, c'est des options, quoi. J'ai envie de dire, on résume malheureusement à cause de ces offres, on résume une base de données à un clic sur une interface graphique en disant j'ai besoin d'une base de données. Et on ne sait plus ce qui se cache derrière, quelle est la structure qui se met en place, en fait.
Oui, je suis d'accord avec toi. Il existe une solution que MariaDB propose, parce que MariaDB propose aussi une solution cloud à travers leur service donc SkySQL. Donc SkySQL, c'est SkySQL, si vous ouvrez un compte, vous avez un crédit de 500 euros, c'est-à-dire pouvoir découvrir MariaDB dans la configuration, les différents storage, les différents... les différentes possibilités qu'offre la base de données. Vous n'avez plus qu'à créer votre site PHP, vous faites les connexions et vous pouvez manipuler. C'est un crédit qui vous est proposé. Après, bien entendu, c'est une offre sous licence parce qu'il faut payer l'infrastructure, l'hébergement.
Oui, tu ne payes pas la base de données, tu payes le service en fait.
Tu payes le service parce qu'il faut payer les machines. Mais en dessous, comment est configurée la machine, quel est l'OS, quelle est la configuration, vous n'avez plus la main. Et je suis d'accord qu'on perd la notion de... avant, il fallait utiliser nos doigts pour pouvoir taper en ligne de commande l'installation de la base de données. Maintenant, tout se fait avec des clics de souris et on perd, on va dire, cette interaction et où on modifie, on va dire, l'approche de l'administrateur de la machine qui à l'époque faisait beaucoup de lignes de commande et beaucoup de configuration, et maintenant la configuration a été largement simplifiée.
Mais c'est parce que aussi quelque part et on le retrouve en développement, ce qu'on appelle le back-end, donc tout ce qui se passe en arrière-plan, intéresse de moins en moins. Il y a beaucoup moins de DevOps aujourd'hui. Il y a beaucoup moins, oui, parce qu'on appelle, c'est ça, hein, c'est les DevOps qui font cette partie opérationnelle. Voilà. Et donc c'est ça intéresse. On a l'impression, enfin, j'ai cette impression que ça intéresse beaucoup moins. Et d'ailleurs, quand on parle avec des futurs développeurs, ce qui leur intéresse, c'est de développer des applications en front, en avant. C'est ce qui va s'afficher sur les écrans, en fait.
Oui, surtout que ça, les mobiles, smartphones ou tablettes n'arrangent pas l'approche. C'est-à-dire que avant on créait des applications, maintenant on a plus tendance à créer des web apps, comme on appelle. C'est-à-dire que la tendance se veut qu'on va créer des applications web, et c'est plus la notion de quel système d'exploitation je vais installer en dessous, mais c'est plutôt une couche au-dessus, à travers le navigateur, et c'est le navigateur qui devient un OS.
Alors attention, je vais déraper. Firefox n'était pas en avance sur son temps avec Firefox OS là-dessus, par hasard?
Si, je sais, puisque j'étais impliqué dedans. J'étais un développeur.
Comme quoi, c'est une question de timing. Dix ans trop tôt, j'ai envie de dire, c'est ça?
Oui. Mais si vous prenez n'importe quel téléphone d'aujourd'hui, il existe Lineage OS, qui est en dessous une distribution Linux, Debian. Donc, là, on ne se pose plus la question de comment installer un paquet ou comment installer ou créer une application.
La Progressive Web Apps. Tu vas sur le site internet, on te propose de télécharger une partie de l'application, entre guillemets, oui, ça s'appelle une application. Donc, et c'est prévu, hein, y a pas besoin de hacker ou devenir root de son téléphone, il suffit de cliquer sur un bouton et tout est prévu, tout est intégré, ça télécharge certains programmes Java dans le téléphone et ça vous crée le raccourci sur le bureau. Alors, c'est pas un raccourci vers un site, hein, c'est vraiment, ça va télécharger des programmes. Donc, si vous êtes offline et que le programme est prévu pour travailler offline, il vous le permettra. Et si vous avez évidemment besoin de ressources online, ça peut se connecter sur le réseau pour aller faire des requêtes.
Oui, voilà. C'est bien ça.
C'est voilà. Mais oui, et c'est vrai que le clin d'œil que je faisais à Firefox OS, c'était justement Firefox OS voulait proposer un système d'exploitation concurrent Android sans le magasin d'application, donc sans être obligé de passer.
C'est pas concurrent, hein. C'est alternatif.
Pardon. J'aime mieux concurrent.
On joue pas de la même catégorie. L'alternative est préférable, une alternative libre, nettement mieux. Une autre type d'alternative.
Oui, mais t'as raison. Oui, t'as raison. Donc, c'était une alternative proposée à Google, à Android ou à iOS, d'ailleurs, pour justement ne plus passer par un magasin d'applications, donc centraliser les applications auxquelles vous avez droit ou pas le droit et toutes les dérives qu'on connaît, du genre quand vous faites un achat, y a une partie qui est ponctionnée par Apple ou par Google. Bon, bref, voilà. Et donc, Firefox OS disait non, mais toutes les applications, on a le droit de pouvoir installer toutes les applications qu'on veut et ne pas être centralisé sur un magasin d'applications. Donc, c'est eux qui ont poussé, j'ai envie de dire, le Progressive Web App, donc l'application web. Donc, il suffisait d'avoir un navigateur pour avoir des applications.
C'est bien ça. De jolis souvenirs. J'en ai même là un dans les mains. Enfin, j'en ai plusieurs qui sont à côté de moi.
J'en ai eu un récemment dans les mains. Alors, c'est évidemment, ça se fait plus aujourd'hui. Firefox OS a été arrêté. J'en ai eu dans les mains et j'avoue que il est très joli. Alors, malheureusement, c'est pauvre en effet en fonctionnalité. Il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités dans le téléphone, mais en effet, j'ai trouvé que l'OS en lui-même était beau, était épuré et était très intéressant au niveau fonctionnalité.
Pour te réconforter, il y a un autre projet sorti à partir de Firefox OS qui a été forqué, qui s'appelle KaiOS.
D'accord.
KaiOS. Qui marche très bien en Asie, qui propose de nouvelles fonctionnalités, des améliorations et qui est très en vogue en Inde, en Chine et qui, je l'espère, bientôt arrivera en France et en Europe.
Nous sommes le mardi 22 novembre, il faut noter cette date au cas où.
2022.
pour l'info, au cas où.
Donc, oui, ça fait archive, et bientôt après, vous pourrez ressortir les archives.
C'est ça.
On était les premiers.
Donc, c'est un système qui existe déjà depuis 5 ans, hein. Donc on n'est pas vraiment les premiers, mais beaucoup ne le savent pas.
Ah oui, mais carrément, bah, carrément pas, oui.
En francophone, j'ai vu le truc passer et je pensais que c'était du même style que Lineage OS. Je savais pas que ça reprenait la partie sur Firefox OS. Donc je pense que certains sont contents de le savoir, notamment voilà, Fabrice. Hein.
C'est à suivre, il faut attendre. Si vous allez dans un pays étranger, ben vous pouvez toujours l'obtenir. Donc je vous laisse effectuer les recherches pour en trouver.
D'accord. Mais, donc, par exemple, si on va au Qatar, mais on pourra le récupérer. Pardon, excusez-moi, j'ai dérapé encore. Bon, mauvaise blague. Et donc tout à l'heure on parlait, donc on a vraiment dérapé, on va revenir sur notre front-end, back-end, SaaS, etc. Et on avait une autre remarque, pour toi, c'est quoi un dev full stack?
Alors le dev full stack, son nom, comme il l'indique, c'est un développeur,
ouais,
qui va développer, enfin, qui va embarquer, qui va faire plutôt un full stack, va englober différents langages, d'être compatible, c'est-à-dire qu'il est un peu capable de faire une architecture, manipuler le langage back-office. Et un peu framework différent. Donc, c'est pas un développeur vraiment pur spécialisé, une fonctionnalité bien précise, mais il est dans la capacité de pouvoir être en rôle, on va dire, un peu plus transverse, c'est-à-dire horizontal. Quand vous faites un site web, vous avez une partie front, donc la partie visible de l'iceberg, une partie back, la partie cachée, et dedans, ben, il faut avoir les connaissances des deux. Donc, le développeur full stack va utiliser ben, les briques, va se rapprocher, on va dire, d'une approche DevOps, donc avec, mais pas DevOps on choisit, on paramètre le logiciel. Là, on va prendre différentes briques, différents frameworks, différents outils, back, base de données, front, et puis l'architecture, et qui sera capable de pouvoir assembler l'ensemble de toutes ces briques pour réaliser un projet. Donc c'est plus un développeur, on va dire, générique, qui va être, bah, comme vous allez chez votre médecin, il y a le générique, et puis il y a le spécialiste. Mmh. Le spécialiste qui a des connaissances un peu plus éloignées, mais lui, il a une fonctionnalité, vraiment le spécialiste, bien précise. Il est soit back, soit front. Là, on va se retrouver sur un acteur qui est important, qui est capable de pouvoir répondre aux deux problèmes, les deux côtés, pour répondre aux besoins du projet.
Donc le full stack, il va à la fois pouvoir manipuler du CSS, faire du JavaScript, faire du PHP, manipuler des API, c'est ça en fait?
Oui, c'est ça. Donc il est capable, il apprend un peu tout, un généraliste, il apprend tout, et si après son diplôme ou sa spécialité full stack, il peut se spécialiser dans une techno plus qu'une autre, suivant son envie ou suivant son besoin.
D'accord.
Et là, il ne sera plus vraiment un développeur full stack, mais il sera un spécialiste ou un expert d'une technologie bien précise.
Ok.
Un développeur back ou un développeur front ou un développeur CSS, suivant son envie ou son goût.
Ou les deux.
Aussi, mais souvent, moi j'ai déjà vu le spécialiste back dire « Ouais, c'est bon, j'en ai assez de faire du back, je vais aller sur le front, je vais faire du front ou je vais faire du CSS. » Et on se rend compte rapidement que ben, on a des lacunes si on n'a pas suivi de formation dédiée. Style, que j'aime bien prendre, le développeur back va se mettre à faire du graphisme. Donc oui, on est capable, chacun de nous, de faire un joli dessin. Mais la qualité artistique peut des fois porter à défaut de la réalisation. C'est-à-dire, moi je suis codeur, donc je suis développeur, et quand je fais des graphismes, je me fais huer par mes graphistes, par ceux qui sont amenés à choisir du côté front les spécialistes, parce que moi mes couleurs préférées, c'est le rouge et le vert. Donc des couleurs bien sûr bien flashy, hein. Donc des couleurs qui, on voit que c'est bleu ou c'est vert. Et ces couleurs-là, le graphiste, il adore me dire « Ouais, mais c'est pas beau ce que tu fais. » Bon, ok, le bouton, il est bleu ou il est vert, on comprend, ça marche ou ça marche pas. Mais faire un paysage que vous regardez à travers votre fenêtre en bleu et en vert, non, en rouge et en vert, pardon, en rouge et en vert, déjà, j'ai jamais vu un arbre en rouge. Enfin, moi, si, je l'ai déjà vu. Vous, peut-être pas. Mais pour vous montrer que... Et puis un ciel, il est jamais jaune. Enfin, le soleil, il est jamais jaune. Mmh. Un soleil vert, ça flash. C'est bien. Moi, j'aime bien ça. Mmh. Bon, je sais que là, vous êtes en train de huer à travers le micro de chez vous. Donc, je vais m'arrêter de vous montrer l'illustration. Mais pour vous montrer que le développeur bac, quand on spécialise bac, on reste dans le bac, quitte à descendre de niveau. Donc, on fait du PHP, c'est super. Vous voulez faire un autre langage, type Python, ou du Rust, ou du Go, oui, c'est du langage du bas niveau, ou du C. Mais si vous voulez aller sur du front, à partir du développeur full stack, oui, c'est possible. Mais si vous faites du côté front, vous allez vous intéresser sur du HTML, du JavaScript, du CSS, et vous allez apprendre à harmoniser ces couleurs et pas vous limiter aux deux couleurs primaires, le rouge et le vert. Mmh. Comme je vous ai expliqué. Donc c'est pour ça que si vous faites le choix d'un côté ou de l'autre, choisissez. Mais moi, j'ai déjà vu des développeurs tenter leur chance d'un côté, revenir et puis dire « Ouais, non, mais je préférerais mieux avant. Toujours mieux avant.
» Toujours.
Sauf pour le noyau Linux.
Non,
c'est mieux maintenant.
Oui, mais le noyau Linux ne permet pas de faire site web. Enfin, pas ma connaissance.
Mais bon, pas mal d'hébergeurs sans le noyau Linux seraient bien embêtés.
Oui. On est d'accord, mais j'ai jamais pensé aller, peut-être que ça existe, faire un site web avec le noyau Linux.
Oui, bien sûr, tout à fait. On va arrêter de rêver.
Ça pourrait être un joli défi à lancer à travers votre podcast.
On va arrêter de rêver.
Ouais, tiens.
Un petit challenge avec un gagner un sticker. Un sticker, c'est un autocollant. Hein,
oui.
Non, mais c'est important de franciser, parce que là, j'ai prononcé un mot en anglais, donc...
Sticker,
même...
c'est pas grave.
Si, c'est important de préciser.
Après, dans le développement, si t'es pas... Si le moindre mot en anglais...
Oui.
Bon courage, j'ai envie de dire.
Faut mieux aller se coucher.
Hormis PHP, je connais pas beaucoup de langages... Qui la doc est en français, est à jour à la version, la dernière version actuelle.
Alors, détrompe-toi. Il existe un CMS qui s'appelle SPIP.
Oui, SPIP.
SPIP. Donc, quand vous voulez afficher le résultat, la fonction s'appelle affiche. Quand vous voulez faire une saisie, la fonction s'appelle saisie. Donc, tout est en français.
Ah, ça donne des pistes.
Eh oui. Mais ça reste principalement un outil français.
C'est un nouvel animal, SPIP. C'est un écureuil, c'est ça, si je me trompe pas.
Oui, c'est un écureuil. Oui. Un écureuil qui vole. Puisque ça saute, un écureuil saute d'arbre en arbre, comme vous le savez.
Ouais.
Et donc, c'est un nouveau dressage d'animaux. Mais là, on s'éloigne vraiment du pur PHP et de la langue. Donc, on va revenir dans la ligne directrice du sujet d'aujourd'hui. Oui.
Et on a fait pas mal le tour. Ah, là, on a l'exemple parfait. Quelqu'un vient te voir.
Oui.
Et te dit, Christophe, je ne sais pas où commencer pour contribuer dans le libre. Que me conseillerais-tu pour contribuer?
Alors, la contribution pourrait, je dirais, faire une émission dédiée sur la contribution.
Oui, bah oui.
Oui. Parce que là, il y a quoi dire. Ah, je vous le dis de suite, hein. On peut faire une émission dédiée par rapport à aujourd'hui, qui est principalement PHP et MariaDB.
Ouais. Hormis mettre les sous-sous dans la popoche dans les associations, en parler, parce qu'en parler, c'est déjà faire contribuer au libre.
Mais déjà l'utiliser. Parce que l'utiliser, c'est déjà beaucoup. Ça permet de soutenir. Après, vous pouvez remonter des alertes à ceux qui développent le projet. Donc, il y a des dépôts, il y a tout plein de choses. Mais si vous voulez vous impliquer plus, je dirais qu'il existe un site important qui sont amis, donc c'est l'April, april.org, qui est l'association de la défense du logiciel libre pour la promotion envers tout le monde et qui rassemble l'ensemble des communautés françaises, et que là vous pouvez retrouver des informations, les rencontrer, puisque régulièrement dont j'en fais partie, on se retrouve sur des événements divers et variés, pas que dédiés à l'informatique, qui permettent de proposer des solutions alternatives ou la promotion du logiciel libre. Donc, on se retrouve avec une bonne porte d'entrée. Bien sûr, suivant ce que vous avez envie d'utiliser ou de pousser vos connaissances, ben, on peut, je dirais, chaque communauté a un besoin. Mais ça, je pense que c'est un sujet vraiment trop dédié pour répondre aujourd'hui. Et je vous propose d'aborder ce thème dans une autre émission podcast.
Là, c'est toi qui as proposé. T'es tendu le piège, t'es tombé dedans. C'est enregistré.
Ben, comme tu le sais bien, il n'y a pas besoin de beaucoup de me pousser pour te dire que je suis tout à fait prêt à revenir te voir.
Bah. Donc on a vu la partie libre aussi pour commencer. Et si tu avais une chose à dire à des jeunes qui voudraient, ou des moins jeunes, des gens en transition de carrière par exemple, qui voudraient
se convertir,
qui hésiteraient à se lancer, quel est le point qui donne envie de se lever?
Ah,
non, pas le langage, parce que je sais que le langage c'est compliqué, mais le point commun, que ça soit du front, du bac, qui permet de se dire le matin, je me lève même avant que le réveil sonne.
Ouais, autant pas se coucher.
Oui.
Alors, disons que souvent, moi j'aime bien, j'ai un t-shirt chez moi, c'est PHP m'a sauvé la vie. Enfin, m'a sauvé, oui, c'est ça. Donc j'ai un t-shirt It's My Life, donc ça a été forqué d'une chanson. et donc, PHP m'a sauvé la vie. Donc oui, pour beaucoup, PHP a beaucoup sauvé la vie. Donc je confirme que PHP et le langage qui sauve la vie, et donc la reconversion. Pour être sérieux, je dirais qu'il n'y a pas un bon ou un meilleur langage les uns des autres. Chaque langage a sa fonctionnalité, a son intérêt, et je dirais que c'est suivant le besoin. Bon, bien sûr, là on est dans une émission qu'on parle de PHP et de MariaDB, donc je dirais aller sur du PHP. Mais si vous êtes amené à faire de l'objet connecté, vous voulez faire de l'infrastructure, vous voulez faire de l'application mobile, smartphone, tablette ou d'autres technologies.
Du MQTT par exemple.
Ben, vous êtes obligé de vous pencher sur le langage qui est associé. Et là, je dirais, c'est peut-être pas PHP qui va répondre à votre besoin, mais ce sera un autre langage. Front, back, bas niveau, du C, du Rust, du HTML, du Python, par exemple, ou bien sûr PHP. Donc je dirais, je n'ai pas conseillé un langage plus qu'un autre. Enfin, déjà, j'en ai cité quelques-uns, je ne les ai pas tous cités, hein, pour ceux qui sont connaisseurs, parce que les autres langages sont des langages qui ont moins une valeur ajoutée à mes yeux. Donc, je vous ai listé des langages qui me semblent importants et qui restent toujours d'actualité et qui ont une longueur d'avance sur la durée, parce qu'il faut penser que le développement sera toujours nécessaire. Et souvent, lorsqu'il y a un nouvel objet qui apparaît ou un nouveau appareil, il y a tout à construire. C'est-à-dire, tout à construire, ben on refait la roue. Mais la roue adaptée pour cette nouvelle technologie. On l'a vu avec l'arrivée des téléphones, on l'a vu avec la technologie du cloud. Eh bien, demain, on arrive sur des drones, on arrive sur des nouvelles technologies. Ce sont des nouveaux langages, ce sont des langages différents. Et je dirais que si vous avez envie d'aller sur quelque chose d'avenir, penchez-vous sur ces langages-là, parce que vous avez un centre d'intérêt. Et vous pouvez directement sauter le pas avec ce nouveau langage pour être à niveau.
Merci, Christophe. On a fait une bonne émission, je pense.
Aurais-tu des recommandations?
Des recommandations.
Film, musique, livre, émission de radio, podcast.
Émission de radio, podcast. Si vous voulez entendre beaucoup plus autour du livre, une émission de mes collègues de Cause Commune animée par l'April qui se déroule en radio FM ou sur internet. causecommune.fm voilà 93.1. donc ça, vous avez ça, vous avez
en DAB+,
vous avez le podcast, vous pouvez écouter de la musique, de la musique libre, donc musique libre, et vous allez avoir tout plein d'informations et de la musique vraiment libre de droit que vous pouvez réutiliser à volonté. Et après, non, je n'ai pas de préconisation sur plus que ça, en espérant surtout que vous ayez envie de réaliser un site web ou un projet en PHP et en MariaDB, qui me ferait énormément plaisir, et peut-être vous croiser dans un avenir futur proche sur un événement libre.
Très bien, merci Christophe. On rappelle peut-être une troisième édition pour ton livre, Construisez votre application en PHP, MySQL ou PDO, non ?
Oui, il y aura une troisième édition, il y en aura d'autres, je vous rassure. Les autres livres, ça sera une occasion que je revienne.
Exactement, pour nous présenter les nouveautés de cette nouvelle édition en 2023.
Si c'est pas ce livre-là, il y en a d'autres, puisque... Si vous avez bien suivi l'émission, en cours d'émission, j'avais dit que chaque animal n'avait pas son livre. Donc, il y a encore des trous.
Du python ?
J'ai pas parlé de python, que je dressais des pitons.
Oh, on est d'accord. Mais voilà, une ouverture, peut-être, je sais pas.
Non, mais attends, tu veux pas qu'il entre... Tu voudrais pas que ça te fasse ta doc, là, dis donc.
Ma doc de quoi ? J'ai plein de questions à lui poser, mais en off.
Moi, je reste principalement avec le dressage d'éléphants.
D'accord.
Qui est important. Et donc on va rester sur ce sujet des éléphants PHP, qui est le thème d'aujourd'hui, avec bien entendu accompagné de son notary, MariaDB.
Et d'ailleurs, vu que t'es un peu touche à tout, hein, je rappelle, Firefox, MariaDB, PHP, Drupal, tu fais aussi un peu de la cybersécurité. Quel est ton domaine de prédilection là-dedans? J'ai l'impression que c'est le PHP, je me trompe?
Alors, mon origine, oui, j'arrive de PHP. Mais ça sera lié avec l'émission qu'on fera sur la contribution. On pourra parler de mes évolutions de contribution. Mais oui, le cœur d'origine, donc oui, le moindre problème ou du genre, vous revenez de soirée, vous n'êtes pas fatigué, vous avez une idée dans la tête, au lieu de l'écrire, codez-la. Et en mieux, codez-la en PHP.
PHP 8, s'il vous plaît.
Je l'ai déjà fait, hein. C'est pour ça que je peux le dire.
Ah oula, faut vraiment pas être fatigué alors. Hein.
Bah si, à 5h du matin ou à 6h quand vous rentrez. 6h, vous rentrez de discothèque, 6h du matin, il fait jour, bah c'est plus l'heure de dormir, c'est l'heure de se lever. C'est ma vision. Donc, vous êtes en forme, puisque vous avez passé une soirée mémorable. Donc, il faut quand même continuer. Et prolonger, faire le after, si vous préférez.
Mais tu
dis le after, ouais. Se motiver et se mettre devant l'écran. Il faut penser que l'Internet, elle, ne dort pas. Et quel que soit de jour comme de nuit, vous avez des humains, des personnes qui sont connectées. Donc, vous pouvez coder.
Mais tu as raison, c'est vrai que moi également je fais du PHP depuis longtemps et c'est vrai que j'arrive mieux à mettre en œuvre en PHP que dans un autre langage mes idées, par exemple manipulation de fichiers. J'avais fait un script qui rangeait automatiquement les photos dans des sous-dossiers, hein, parce que les photos voilà ont des dates et heures dans les métadonnées, et c'est vrai que j'ai trouvé ma solution en PHP. J'ai fait un script PHP pour trier mes photos. Voilà.
Oui, oui.
Mais c'est...
PHP sauve votre vie.
Alors, je ne sais pas si ça a sauvé ma vie, mais en tout cas, ça a sauvé ma photothèque. En tout cas, mon stockage de photos.
Eh oui. Donc, PHP sauve la vie. C'est pour ça. N'hésitez pas, il faut y aller.
Très bien. John, le mot de la fin?
Ça va être difficile, hein. Vivement le prochain. Vivement le prochain. Je vais reprendre celle de mon streetcast, parce que là, pour le coup, ça colle bien. C'est continuer d'apprendre et de partager ce que vous aimez.
C'est très bien. En tout cas, on vous remercie pour votre fidélité. J'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, vous marquez les commentaires sur le site de l'apéro des papas manchots. N'hésitez pas à faire un retour.
Venez nous rejoindre sur Discord.
Exactement. Le lien disponible également sur le site de l'apéro des papas manchots. Vous avez tous les liens sur le site de l'apéro des papas manchots.
Ouais. Sauf le menu qui est en cours de création. Et donc, vous pourrez être hébergé aussi dessus.
Auto-promo pour John, parlons Linux.
Auto-promo, voilà.
Mais c'est une excellente idée, mais on en reparle en effet.
D'enregistrement. Donc voilà. Donc, très bien. Partagez ce que vous aimez, continuez d'apprendre.
Voilà.
Et Microsoft.
Et rendez-vous sur. J'allais dire une connerie. Rendez-vous au prochain numéro de l'apéro des papas manchots. En vous remerciant encore beaucoup pour votre fidélité. Merci Christophe d'avoir accepté ce rendez-vous. J'espère que ça t'a plu. Et puis, rendez-vous au prochain numéro. À bientôt. Oui. Au revoir.
Ça m'a bien plu. Merci à vous. Salut. À bientôt.
Been listening to Hacker Public Radio at hackerpublicradio.org. Today's show was contributed by a HPR listener like yourself. If you ever thought of recording a podcast, then click on our contribute link to find out how easy it really is. Hosting for HPR has been kindly provided by anhonesthost.com, the Internet Archive, and rsync.net. Unless otherwise stated, today's show is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.